Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, deux entrevues. La première, on vous parle du spectacle de théâtre intitulé Victoria, qui aborde des thèmes assez universels qui toucheront tout le monde à un moment ou l'autre, soit le vieillissement, la perte d'autonomie, l'accompagnement d'une personne malade ou encore la mort. Hein? Et ça, personne n'y échappe à la mort. Ce spectacle-là tourne depuis 15 ans et un peu partout à travers le monde. Il a été traduit en 7 langues. La preuve que personne n'y est indifférent. Et au début du mois, le spectacle est revenu pour une tournée au Québec, une tournée qui est gratuite dans le but de se rendre directement dans des CHSLD, des organismes, des centres de jour pour en faire bénéficier les personnes aînées, les familles, les proches aidants, ainsi que les professionnels soignants. Oui, on va en parler tout à l'heure avec Dulcinée Langfelder, elle qui est comédienne et créatrice du spectacle. Et puis, vous parlez également d'un livre extrêmement percutant, un livre qui est touchant, qui m'a habité dans les derniers jours. Ça s'intitule « Respire, bébé, respire. Prématurité et naissance difficile ». C'est paru chez Québec Amérique et ça nous transporte à l'unité de soins intensifs pour bébés prématurés de l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Et c'est l'histoire plutôt ironique d'une famille, celle du docteur Annie Janvier, pédiatre spécialisée en néonatalogie au CHU Sainte-Justine, et maman de Violette, née à 24 semaines de grossesse. Annie Janvier, on va tenter de lui parler dans quelques instants. Pour le moment, un petit pont musical. Docteur Janvier, bonjour.
Oui, bonjour.
Je le disais en introduction, Respire bébé, respire, c'est un récit qui est bouleversant. Ça m'a habité pendant des jours, là, la lecture du bouquin, s'inspirer de votre famille, une famille extrêmement courageuse, écrire un moment difficile de votre vie. D'abord, écrit en anglais pour créer une distance, j'imagine. Violette, Annie Janvier, elle a aujourd'hui 10 ans. Est-ce que c'était le temps qu'il vous fallait pour prendre du recul face à cette histoire?
Dans le fond, est-ce que c'est le temps du recul? Il y a non seulement que j'ai écrit ça par petits bouts que j'ai trouvé par hasard à un moment donné, j'ai pas vraiment écrit ça comme un journal intime, c'était plus un échappatoire qui, j'avoue, j'aurais probablement pas pu écrire en français dans un journal intime. J'écrivais à mon ordinateur en anglais, donc il y avait déjà une distance. Fait que j'ai pas écrit ça dans le but d'écrire un livre, mais par la suite, dans mon travail, j'ai fait des conférences en éthique clinique, j'ai parlé à beaucoup de parents, j'ai écrit d'autres histoires sur des bébés, puis un autre livre qui a commencé à prendre forme, puis par la suite, j'ai pensé inclure mon histoire là-dedans. Il y avait aussi le fait que je voulais que ma fille connaisse son histoire avant de la publier, qu'elle sache qu'elle avait failli mourir, puis où est-ce qu'elle avait été, qu'est-ce qui s'était passé, pour pas que tout d'un coup, elle apprenne qu'il y a un livre sur elle quand elle soit, avant de l'avoir appris, en fait, de ses parents. Mm-hmm. Fait que c'est un peu toutes les raisons. Puis là, la plupart des parents que je vois sont francophones. En fait, il y a des chapitres qui ont été écrits en français. Ma voix de médecin, ma voix d'éthicienne, ma voix de maman de maintenant. Oui. Puis la plupart des chapitres tous les chapitres de Quand Violette était malade ont été écrits en anglais. Il y en a plusieurs, en fait, je me souvenais même pas d'avoir écrit.
Oui. Annie, ce livre-là est bien sûr votre histoire, mais également à travers le récit, c'est l'histoire de toutes les familles que vous avez rencontrées au cours de votre carrière en néonatologie. Une espèce, je le ressentais comme ça, d'hommage à ces familles-là parce qu'elles vous ont inspiré et elles vous ont appris à être une meilleure mère pour Violette à quelque part.
Oui, souvent la question, c'est comment ça t'a changé comme médecin d'avoir Violette, d'avoir un bébé malade dans ton unité de bébé malade comme médecin de bébé malade. Et en fait, c'est plutôt la question opposée, c'est en fait une chance que j'ai rencontré toutes ces familles-là avant d'accoucher. Parce que même si on se le dit, ça doit être difficile, ou il faut du courage, ou il faut de la résilience, de le vivre, c'est tout à fait autre chose. Fait que c'est vraiment ces familles-là qui m'ont aidée, en fait, à être une meilleure mère. Et si je les avais pas rencontrées, honnêtement, j'aurais été perdue. Puis c'est vrai, rencontrer toutes ces merveilleuses familles-là, puis ces bébés malades qui, la plupart, s'en sortent, et ces familles-là qui traversent toutes ces épreuves, ben, ça nous fait aussi des meilleures personnes, mm-hmm. des meilleurs soignants.
Oui. J'imagine, Annie Janvier, que lorsque l'on met un enfant au monde, un enfant à terme, parce que vous êtes aussi la mère d'un enfant né à terme, il y a oui. plein de questions là, qui nous viennent en tête. Est-ce que mon enfant va être en santé? Est-ce que je vais être un bon parent? Est-ce qu'il va ressembler à grand-maman, à mon conjoint? Lorsqu'on met au monde un enfant prématuré, il y a aussi d'autres questions, mais c'est totalement différent. C'est quoi les questions récurrentes qui viennent en tête?
Bien, dans le fond, quand on met un enfant, je ne sais pas comment dire normal, parce que c'est dur à définir la normalité, ouais. il y a quand même toutes ces questions-là dans la société. On essaie d'être une bonne mère potentielle. On ne mange pas tout ce qu'on dit de ne pas manger, on ne prend rien, on ne sort pas. En tout cas, on est comme cloîtré pendant notre grossesse. Mm. Puis on a comme l'impression naïve que si on fait tout ce que le docteur nous dit, puis la société nous dit, puis c'est imposé sur nous, on va avoir un bébé qui va être bien et en santé. Et quand tout d'un coup un bébé n'arrive pas en santé, parce que mon livre c'est aussi sur les bébés qui ont des malformations cardiaques, ou en fait tous les bébés qui sont en néonatologie, où les parents, dans le fond, quand on a un bébé, on espère de le tenir dans ses bras, de le prendre dans notre chambre en maternité, puis d'aller à la maison rapidement.
Oui, on n'imagine pas qu'il va être sous observation avec un respirateur pour l'aider à respirer.
Oui, puis avec des électrodes, puis avec toutes sortes de choses. Fait que c'est, il n'y a pas juste des prématurités en néonat. La première question qui vient, c'est pourquoi c'est arrivé?
Ouais.
Pourquoi moi? Moi, j'ai tout fait ce que je devais faire. J'ai pas bu de café, j'ai pas pris de sushi, j'ai pas pris de machin, je peux aller dans des bains de tourbillon. En fait, maintenant, la liste de choses qu'on peut pas faire quand on est enceinte est rendue genre une bible ou bien un dictionnaire. Fait qu'il y a la première chose, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire, pourquoi que ça arrive. Puis c'est une question qui reste là longtemps, souvent toute la vie des mamans, même si elles se répètent dans leur tête que c'est pas de leur faute. Il y a quand même un poids à porter de dire, de revenir dans le temps puis dire, si j'avais pas fait ça, peut-être ça serait pas arrivé.
Oui. Et c'est même arrivé dans votre tête de scientifique, de médecin, pédiatre spécialisé en néonatologie, à savoir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Et pourtant, vous l'expliquez assez bien dans le livre. Il n'y a pas nécessairement de cause à mettre un enfant prématuré. Là, les mères n'ont rien fait de mal. Ça arrive et c'est tout.
La plupart du temps, c'est ça, c'est la nature, comme je dis aux parents, qui est vraiment nature's a bitch. Là, c'est pas les parents. Puis c'est comme les malformations congénitales, mais c'est sûr que même si on le sait avec notre tête, je pense que dès qu'on est mère puis qu'il y a quelque chose à notre enfant, on se demande comment on aurait pu faire pour prévenir ça, parce que c'est notre rôle. Il y a peut-être quelque chose de différent avec la prématurité, c'est la maladie en tant que telle, c'est pas une vraie maladie. C'est en fait, la médecine a fait la job que le ventre est supposé faire. Puis elle a fait beaucoup moins bien qu'un ventre de maman.
C'est sûr.
Fait que nous, on nourrit notre bébé à travers le placenta, il grossit à la bonne température tout le temps. Puis dans le fond, en néonatologie, on nourrit par les veines, après ça par un tuyau. L'oxygène, se rend avec un respirateur. Après ça, fait que c'est des choses, dans le fond, c'est comme ça remplace mon ventre, mais ça le remplace mal. C'est aussi cette image-là que c'est pas comme une maladie. On attrape une bactérie, on tue la bactérie, ou on a un cancer, on tue les cellules cancéreuses. C'est quelque chose de différent.
Mm-hmm. Annie Janvier, je le disais, ce livre-là est extrêmement touchant, mais en même temps, de par votre formation, il est informatif aussi. Moi, je savais qu'un bébé qui était né là, avant 40 semaines, on pouvait dire qu'il était prématuré, mais vous amenez vraiment des notions, des explications. On peut dire avant 37 semaines prématurées, mais lorsque c'est comme Violette à 24 semaines, quel terme on peut employer?
On parle d'extrême prématurité. Souvent, il faut se rappeler que les extrêmes prématurés, il n'y en a pas tant que ça. C'est 0,8% des naissances. Fait que c'est moins qu'1% des naissances. Fait que c'est des bébés qui naissent dans 28 semaines et moins. C'est pas beaucoup de naissances. La plupart des bébés prématurés naissent entre 32 semaines et 40 semaines. Il y a 8% de bébés prématurés qui naissent au Canada, au Québec. Mm-hmm. Fait qu'à peu près 8%. Fait que la grande majorité des prématurés, c'est des prématurés qu'on appelle légers. Mais c'est certain qu'il y en a tellement, tellement, tellement de prématurés légers. Bien, vous voyez, 8 % des naissances, c'est presque une naissance sur 10.
Oui.
Bien, ça, c'est quand même aussi un... C'est pas rien en coût économique et en coût émotif des familles.
Oui. Et c'est quoi les impacts sur la santé d'un bébé qui est un extrême prématuré?
C'est que dans le fond, quand les bébés naissent avant 28 semaines, il y en a beaucoup, en fait, qui sont... Quand on parle, il y a la fonction à long terme qu'on appelle médicale. Donc, quand on regarde ce qui se passe dans la santé de ces enfants-là, il y en a à peu près la moitié qui ont un développement normal puis qu'on n'est pas capable de faire la différence entre un bébé né à 25 okay. semaines d'un bébé né à terme. Ensuite, il y en a 10 à 15 qui ont des handicaps qu'on appelle sévères, c'est-à-dire une paralysie cérébrale qui est généralement un problème de mouvement des jambes seulement, pas des bras. Il y en a 1% qui peuvent souffrir de cécité. Il y en a peu, 1% aussi à peu près au même moins qui peuvent souffrir de surdité. Et il y a quand même pas mal de troubles d'apprentissage. Il y a à peu près 1 sur 3 qui a des problèmes à l'école ou d'hyperactivité ou de dyslexie. Fait que c'est quand même pas rien. Par contre, quand on regarde chez ces enfants-là, quand ils sont plus vieux, pour juger leur qualité de vie, et quand on demande aux parents quelle est leur qualité de vie, quand on compare les enfants à terme aux enfants nés extrêmement prématurés, les enfants disent qu'ils ont une bonne qualité de vie. Dans le fond, les choses qui sont importantes pour les enfants et les familles, avoir des amis, être heureux, aller à l'école, se sentir intégré dans les activités, quand on compare la moyenne des extrêmes prématurés avec celle des enfants à terme, elle est similaire.
Et ça me fait penser, en vous écoutant, Dr Janvier, que ces familles-là, beaucoup de parents vous ont dit « Mon bébé, c'est pas une statistique. Je réfléchis, je prends les décisions avec l'amour que j'ai pour lui et non pas avec ce que vous pouvez amener avec les données scientifiques. » Est-ce que ça a également guidé vos décisions, même si vous êtes une scientifique à la base?
Bien, c'est certain, quand on dit 50%, comme médecin ou 80% comme médecin ou 90%, ben 90 c'est beaucoup, 100% c'est la moitié. Mais quand c'est ton bébé, il est pas à moitié mort là, il est ou mort ou il est vivant.
Ouais.
Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Mais même dans le monde du cancer, on voit ça aussi. Quand on dit qu'il y a 80% de décès, la plupart des adultes désirent une chirurgie parce que il y a quand même 20% qui survivent. Puis on voit pas les chiffres de la même manière quand c'est des enjeux de vie et de mort que quand c'est pour décider, je sais pas moi, de quel genre de yogourt on va acheter à l'épicerie.
Oui.
Fait que c'est, même si on dit 50% pour un patient, pour un parent, c'est 0 ou 100. Puis les vraies questions deviennent, ben, est-ce que ces familles-là sont heureuses? Est-ce que ces enfants-là sont contents? Est-ce qu'ils ont des amis? Puis il y avait pas tant d'articles que ça quand j'étais... Bien, quand moi-même, j'avais Violette il y a 10 ans, il y en a de plus en plus. Puis on voit que même pour les enfants qui ont une trisomie 21, qui est un handicap beaucoup plus sévère que d'être né prématurément, parce qu'il y a quand même presque toujours des problèmes intellectuels, on voit que ces familles-là, malgré le fait que nous, on les définisse par des chiffres puis des symptômes on définit tout le négatif, on définit pas le positif. Mm-hmm. On dit pas que ces familles-là sont heureuses, on dit pas que ces enfants-là sont heureux. On ne dit pas que ces enfants-là ont des amis qui sont capables de jouer. Fait qu'il faut faire attention aussi comment les médecins décrivent les choses. C'est souvent avec une liste de diagnostics négatifs. Oui. Et pas souvent avec 80% de bonheur,
voilà.
30% de joie de vivre.
Oui, oui, il n'y a pas d'indice de bonheur là, dans ces chiffres-là. Maintenant, à la fin du bouquin, vous donnez une espèce de petit guide à savoir comment s'en sortir pour les familles qui ont eu un enfant prématuré. J'aimerais vous entendre là-dessus, à savoir vos conseils pour ces familles-là qui traversent cette épreuve.
Dans le fond, le premier, c'est un peu de sortir du cercle vicieux de la culpabilité, de dire ben, si j'avais, puis si j'étais, puis si on avait... parce qu'on fait juste du surplace pour l'avoir fait moi-même pendant des mois ou peut-être même des années. Ça aide pas que la famille nous demande régulièrement ben, pourquoi c'est arrivé, puis il me semble que tu as tout fait correct, puis c'est-tu parce que tu étais debout toute ta grossesse?
Mm-hmm.
Fait que déjà, le premier, c'est le chapitre de la culpabilité. Composer avec les autres, je pense qu'il faut être capable de juste raccrocher le téléphone puis d'inventer n'importe quelle raison pour plus parler à ceux qui nous font mal sans vouloir le faire.
Vous alliez tirer votre lait.
Moi, je disais, il faut que j'aille tirer mon lait. Parce que c'était trop... Ben, c'était les questions que les gens posent. Ben là, si elle meurt... Puis c'est, en fait, on dirait que quand on est on a une bonne journée, ben les gens essaient de nous descendre un peu pour qu'on soit réaliste, puis qu'on a une très mauvaise journée, ils essaient de nous remonter, puis des fois de manière très malhabile, puis c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, mais c'est dur de répéter aussi 10 ouais. fois par jour comment ça va mal. Fait que l'autre conseil que je donne aux parents, c'est dans le fond de se trouver un porte-parole, de trouver quelqu'un qui va parler pour eux, pour pas toujours répéter les mauvaises choses que ça finit par nous ruiner le moral, ou d'avoir une page Facebook, ou d'avoir quelqu'un qui écrit des courriels pour eux, ou quelqu'un qui prend le téléphone puis qui appelle les gens importants. L'autre chose qui est importante, je pense, c'est de faire sortir le méchant. J'ai écrit ça comme ça, mais c'est un peu quand les gens disent « allez vous reposer », c'est de se défouler de la manière qui fonctionne pour nous. Souvent, ben, il y a des manières génériques dans notre société de dictature du bonheur, de comment faire sortir le méchant, genre les méditations, le yoga. Mais il y a certaines personnes, c'est la boxe, d'autres, c'est écouter du hard rock, d'autres, c'est jouer à des jeux de société. Fait que de trouver un échappatoire pour que le petit hamster dans le cerveau arrête de tourner. Puis aussi prendre sa place. Est-ce qu'on arrive comme parents en néonatologie? Même quand je connaissais, moi, toutes les machines, j'aurais pu les régler, je savais comment mettre les cathéters et tout ça. C'est pas la même chose. En fait, même si j'étais un médecin, là, puis je savais quoi faire avec la machine, je savais pas comment être la maman d'un bébé sur une machine. Puis dans le fond, c'est d'apprivoiser la néonate. Souvent, malheureusement, les parents, ils pensent que c'est en connaissant toutes les machines qu'ils vont l'apprivoiser. Mais c'est plus en prenant sa place et en disant, ben comment est-ce que je peux être un parent en néonatologie? Comment je peux faire l'horaire pour mon bébé? Quand est-ce que je vais tirer mon lait? Quand est-ce que je peux changer sa couche? C'est d'être impliqué dans ses soins, puis de ne pas avoir peur de demander, ben l'horaire des visites, quand est-ce qu'on peut appeler, quand est-ce qu'on vient, qui peut venir, comment on peut s'occuper de notre bébé? Puis souvent, les parents sont les premières semaines à apprendre, ben le respirateur, il pousse combien de pourcents d'oxygène? Mais une fois qu'ils ont fait le tour de la question, ben ils sont aussi démunis parce que c'est pas l'oxygène nécessairement qui est important, c'est comment être le parent de ce petit bébé-là.
Oui, et vous soulignez aussi l'importance pour le parent d'arriver à exprimer ses besoins aux professionnels de la santé. C'est souvent une grosse équipe en néonatologie, mais il est possible de communiquer avec ces gens-là. Et il y a vraiment un passage très mignon, Annie Janvier, où vous donnez des exemples de parents qui écrivent des petits cartons, qui laissent à côté du berceau de l'enfant pour un peu exprimer aux spécialistes, eh bien voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec mon bébé.
Oui, puis toutes les familles sont différentes. Puis je pense des fois, on oublie ça comme médecin. Comme on a nos statistiques, puis tous les bébés, bien c'est sur 100 bébés. Bien, les parents, il y en a qui ont 3 enfants à la maison, ils vont être moins là. Il y a des mamans qui, c'est leur premier bébé, puis elles habitent à l'hôpital, dans le fond, à Sainte-Justine, à Cachou. Et c'est pas du tout la même chose. Il y en a une qu'on va appeler aux 3 heures pour venir tirer son lait, allaiter, changer la couche, puis il y en a une autre qui va aider les 3 autres enfants à faire leurs devoirs, puis aller faire manger, puis aller les coucher pendant la soirée. Donc, c'est vraiment important pour les parents de dire, ben voici ma famille, voici comment vous pouvez m'aider, puis voici comment on peut faire un plan de soins ensemble pour soigner mon bébé.
Oui, et ça ramène à l'importance de ne pas se comparer avec les autres mères, les autres familles. Il y a beaucoup de parents en néonatologie et tous les bébés sont uniques, toutes les familles le sont également. Donc, de vraiment se dire qu'on fait le mieux pour nous sans regarder ce qui se passe à côté, parce que ça peut devenir très, très cruel là, quand on voit notre enfant faire moins de progrès que l'enfant à côté. Et vous l'avez vécu avec Violette.
Et vous avez bien lu mon livre. Je pense que vous allez faire les entrevues à l'avenir pour moi.
Ben, ça me ferait plaisir dans le sens où...
C'est tellement dur. Mais en fait, c'est partout en santé. Quand on a un cancer, on se compare aux autres maudits qui n'ont pas eu cette complication-là. Puis on se trouve bien bon d'être capable de se mettre sur pied au bout de 4 jours à la place des autres tweets qu'ils ne sont pas au bout d'une semaine. Mais quand c'est notre bébé, mon Dieu, qu'on devient maudit quand on voit qu'il y a un autre bébé qui fait mieux que notre fille ou qu'on capote quand il y a un autre bébé qui est mort à côté d'une autre. C'est très difficile de se dire « Violette, c'est Violette, moi, c'est moi, les autres bébés, c'est les autres bébés ». Je veux dire, on les voit quand même, puis quand on se compare, on se console, mais on peut aussi se devenir très malheureux.
Ouais. En terminant, Annie Janvier, est-ce que les professionnels de la santé dans les hôpitaux, dans les unités de néonatologie, sont vraiment au courant des besoins de ces familles-là?
De plus en plus, je crois, il y a vraiment on commence à plus personnaliser les soins à la place de les standardiser pour tout le monde. On commence plus à faire des initiatives centrées sur la famille à la place d'être juste centrée sur le patient. En ce moment, par exemple, dans beaucoup d'unités néonatales comme la nôtre, on a des parents partenaires qui nous aident à, par exemple, rédiger le fascicule des mm-hmm. visites ou qui nous aident à dire ben, comment est-ce qu'on pourrait aider votre expérience, puis qui sont là. Moi, je suis un peu des deux côtés de la médaille, fait que des fois, mm-hmm. c'est plus difficile à réfléchir, mais d'avoir des parents qui sortent et disent ben, savez-vous, ça aurait pu être mieux fait. Puis dernièrement, on a fait un questionnaire, puis il y a des places où on manque complètement le bateau et d'autres places où nous, on se disait qu'on n'était pas très bon, puis les parents nous trouvent formidables. Fait qu'il y a ça aussi que des fois, en se regardant nous-mêmes, on ne voit pas nécessairement ce qui va bien ou pas. Fait que je pense que dans la santé en général, il y a de plus en plus de place pour le partenariat des patients, des familles, puis c'est vraiment tant mieux.
Docteur Annie Janvier, je le rappelle, vous êtes pédiatre spécialisée en néonatologie et en éthique clinique du côté du CHU Sainte-Justine. Vous êtes également maman d'un enfant prématuré. Vous avez relaté votre histoire à travers le livre « Respire, bébé, respire, prématurité et naissance difficile ». C'est publié chez Québec Amérique et on s'attache beaucoup à votre famille. Je les salue et je vous souhaite un bel après-midi.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Dulcinée Langfelder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes du côté de Rimouski, il fait beau par là?
Il vente, mais le fleuve est tellement beau.
Dulcinée, vous êtes là pour nous parler d'un spectacle de théâtre dont vous êtes la créatrice, Victoria, qui aborde en fait des thèmes qui vont de la maladie, la mort, la perte de l'autonomie. Ce spectacle-là a été joué partout dans le monde, Zimbabwe, France, Hollande, traduit en 7 langues. Ça prouve que ces thèmes-là sont universels, à quelque part, on ne peut pas y échapper.
Oui, je dirais même que c'est un spectacle qui est très bon pour la santé. c'est un spectacle qui traite... Bon, je vous raconte très brièvement la genèse. J'avais un copain qui travaillait comme préposé aux bénéficiaires. Il savait que j'avais un penchant pour la tragicomédie mm-hmm. dans mes créations. Et il m'a appelé un jour, il m'a dit « Il faut que tu viennes rencontrer Victor ». C'est un vieux bonhomme en chaise roulante qui a perdu la mémoire. Et des fois, je me demande s'il est gaga ou s'il a découvert le nirvana. Et je trouvais ça fascinante, intrigante. Je me suis dit tout de suite, mon Dieu, on va l'appeler Victoria. Et la question qui me brûlait, c'était où est-ce qu'on trouve sa victoire personnelle lorsqu'on a perdu son pouvoir?
Oui. Mais en même temps, Victoria n'a pas perdu son pouvoir parce qu'elle est tout de même héroïne de cette pièce-là.
Et c'est-à-dire qu'elle a perdu son pouvoir physique,
ouais,
le pouvoir mm-hmm. de pouvoir parler, de pouvoir marcher. Elle est fragile, elle est vieille, elle est vulnérable. Mais elle découvre son pouvoir personnel, par son attitude.
Oui. Je voulais parler avec vous, Dulcinée, parce que ça me semble assez important de ce désir-là chez vous et chez votre équipe de créer le dialogue avec des professionnels de la santé, des proches aidants, des familles, oui. à travers le spectacle. Et c'est ce que vous souhaitez faire dans cette tournée ici au Québec, là, après 15 ans.
C'est sûr que c'est un spectacle qui a été conçu pour la scène. C'est assez complexe techniquement. C'est un spectacle qui a été conçu pour le grand public, un spectacle qui a fait la tournée, comme vous avez dit, autour du monde. Et c'est pour le public, le grand public. Mais nous, on sait que les personnes qui peuvent en bénéficier le plus de Victoria, ce sont des proches aidants, le personnel soignant, les patients, les gens qui connaissent trop bien le sujet du spectacle. Et ces gens-là, ils viennent voir le spectacle, mais pas en grand nombre.
Mm-hmm.
Il s'agit des gens qui sont trop occupés, qui, si jamais ils ont le temps de se divertir, ils vont pas aller voir une pièce de théâtre qui traite de
leur réalité, de leur quotidien,
de tous les jours. Sauf que nous, on a besoin de les faire comprendre que, au contraire, ça va vous faire du bien.
C'est bon pour la santé. Et en quoi le spectacle victorien peut aiguiller, aider les proches aidants ou les professionnels de la santé du ciné?
Écoutez, je ne suis pas une experte vraiment dans la matière, mais je sais par expérience que quand le personnel soignant vient voir le spectacle ou les proches aidants, les gens me disent souvent que ce spectacle est une véritable formation.
Ouais.
Ça nous rafraîchit les idées. Pour le personnel soignant, ça les rappelle pourquoi ils ont choisi ce métier-là.
Ah ouais.
Ça dépasse, ce n'est pas un spectacle qui peint en couleur ou en rose une situation qui n'est pas toujours jolie, mais j'étais déterminée dans cette pièce-là de souligner le côté positif, parce qu'il y en a un. Et ce n'est pas inventé, c'est vrai. Je l'ai vu avec mes propres yeux, je l'ai vécu avec... J'ai passé 4 ans à rechercher cette pièce-là, où j'ai passé beaucoup de temps avec des gens en institution, les gens qui souffraient de la maladie d'Alzheimer ou d'autres états semblables. Et j'ai pu me mettre dans leur perspective. J'ai perdu aussi mon père à cette époque-là. C'était pas par une... Lui, il a fait une embolie du cerveau. Il a perdu la capacité de parler. Mm. Et je voulais voir à travers ses yeux. Je voulais savoir qu'est-ce que lui, il est en train de vivre. Je savais que je vivais un moment extrêmement riche.
Oui.
Mais j'étais tellement paniquée que je n'ai pas pu l'apprécier.
Et vous avez pu transformer cette panique-là dans une pièce de théâtre. Je le rappelle, une pièce de théâtre qui s'intitule Victoria, c'est en tournée partout au Québec. On laissera bien sûr sur notre site les dates et les endroits où vous allez vous produire. C'est Anne Sabourin qui jouera le rôle de Victoria. Dulcinée Langfelder, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce spectacle-là que vous portez depuis plus de 15 ans maintenant. Vous êtes créatrice de Victoria. Et puis, on aimerait bien être à votre place pour admirer le fleuve du côté de Rimouski. Au revoir, Dulcinée.
Merci à vous.
Rémi Hermoso à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche. C'était Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous, nous, demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.